Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans et c'est Clap. Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans mensaux avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafont. Cette semaine, il y a 8 nouveautés sur les écrans mensaux. Boléro, Comme un fils, HLM Pussy, 14 jours pour aller mieux, La salle des profs, Inch'Allah un fils, Imaginary et Blue Giant. Il n'y a pas La vie de ma mère, c'est un peu surprenant, un film avec Agnès Jaoui et William Blake Bill, mais bon, il n'y est pas. C'est comme ça, on va faire avec, ou plutôt sans. Pour ce qui est de la programmation musicale, vous allez avoir bien entendu droit à du Maurice Ravel, forcément, avec le titre Boléro, c'était de circonstance. Mais on va commencer par un titre que l'on entend dans 14 jours pour aller mieux, et c'est Céline Dion, ben oui, Céline Dion. Et le titre, c'est Prière païenne. Pas un des titres les plus connus de Céline Dion, mais il est interprété dans le film 14 jours pour aller mieux, donc sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Les mains serrées, ça c'est facile. Fermer les yeux, j'aime plutôt ça. Genoux pliés, pas impossible. Se taire un peu, pourquoi pas. Mais ma prière, elle est qu'à moi. J'y mets tout ce que j'aime, ce que j'espère, tout ce que je crois. Je prie la terre de toute ma voix. Mais pas le ciel, il m'entend pas. Mais pas le ciel, trop pour moi. Quand je me réveille, je loue le jour. La vie toujours. Toutes ces merveilles, je prie les roses, je prie les bois, les vertus roses, n'importe quoi. Je prie l'hiver quand il s'en va, l'été, les citrons, ni la mer, et le soleil, ses éclats. Et je suis sincère, je prie pour tout ça. Mais toi, le ciel, tu n'entends pas. Mais toi, le ciel, est-ce que t'es là?
Et toi le ciel,
toi le ciel,
Prière païenne, Céline Dion, et c'est ce titre que l'on entend dans le film 14 jours pour aller mieux. On en parle dans un petit quart d'heure, 14 jours pour aller mieux. On commence notre semaine cinématographique avec Boléro. Boléro, c'est un film d'Anne Fontaine. Il est proposé au Méga CGR et au Pathé Quinconce. 2 heures. Anne Fontaine, réalisatrice, scénariste, actrice, née en 59. Actrice, elle était actrice dans le film Prof. Pas Les Profs, hein, Prof. Avec Patrick Bruel débutant, par exemple. Elle commence en tant que réalisatrice en 93 avec Les histoires d'amour finissent mal en général, avec Samy Boagila. Puis 97, Nettoyage à sec avec Charles Berling, Miu Miu. 99, Augustin, roi du kung-fu avec Bernard Campan et Jean Chrétien, Cybertin Blanc, qu'elle avait déjà eu comme acteur dans Augustin, mais c'était un moyen métrage simplement. 2001, très bon film, Comment j'ai tué mon père avec Charles Berling et Michel Bouquet. 2004, excellent aussi, Nathalie avec Fanny Ardant, Emmanuel Béart et Gérard Depardieu. 2005, Entre ses mains, Isabelle Carré, Benoît Poulvorde. 2006, Nouvelle chance avec Daniel Darieux, mais oui, Daniel Darieux, Ariel Dombal. 2008, La fille de Monaco avec Fabrice Lucchini, et c'était les tout débuts de Louise Bourgoin au cinéma. Coco avant Chanel avec Audrey Tautou et Benoît Poulvorde. Mon pire cauchemar avec Benoît Poulvorde et Isabelle Huppert. 2013, Perfect Mothers avec Naomi Watts et Robin Wright. 2014, très très bien aussi, Gemma Bovary avec Fabrice Lucchini et Gemma Atherton. 2016, Les Innocentes avec Lou Delage, Vincent Macaigne. 2017, Marvin ou La Belle Éducation avec Finnegan Oldfield et Grégory Gadebois. 2019, Blanche-Neige avec Isabelle Huppert, Lou Delage. 2020, Police avec Omar Sy, Virginie Efira et Grégory Gadebois. Et le tout dernier, en 2021, c'était Président avec Jean Dujardin et Grégory Gadebois qui jouaient respectivement Sarkozy et Hollande. Pierre nous en dit plus sur ce film proposé, donc je répète, au Pathé Quinconce et au Méga CGR.
Avec Raphaël Personnaz, Doria Tillier et Jeanne Balibar. Le synopsis, en 1928, alors que Paris vit au rythme des années folles, la danseuse Ida Rubinstein commande à Maurice Ravel la musique de son prochain ballet. Tétanisé et en panne d'inspiration, le compositeur feuillette les pages de sa vie. Les échecs de ses débuts, la fracture de la Grande Guerre, l'amour impossible qu'il éprouve pour sa muse Misia Certes, Ravel va alors plonger au plus profond de lui-même pour créer son œuvre universelle, le Boléro. La revue de presse, Le Point, pour raconter sa genèse et la personnalité mystérieuse de son créateur, Anne Fontaine a préféré au biopic une sorte de plongée sensorielle, de parcours intime dans l'univers d'un génie. Suivant les conseils de Truffaut, selon qui 75% de la réussite d'un film repose sur le choix des acteurs, elle a réuni un solide casting. Les Échos avec Olivier De Bruyne. Dans ce biopic singulier, Anne Fontaine évoque la personnalité complexe du créateur du Boléro et revient sur la naissance d'un monument de la musique classique, une réussite. La Croix avec Emmanuel Giuliani. Centré autour de la personnalité énigmatique de Maurice Ravel, l'auteur du fameux Boléro, le nouveau film d'Anne Fontaine repose sur le talent de ses interprètes, Raphaël Personnaz en particulier. Le Figaro avec Thierry Ilerito. Si le comédien convainc dans le rôle du compositeur, le film d'Anne Fontaine, lui, laisse sur un sentiment frustrant d'inabouti. Le Parisien avec Catherine Ball. À force de nuances, ou peut-être parce qu'elle a voulu être trop fidèle au parcours de ce musicien qui n'avait pas un caractère aussi flamboyant que certains de ses morceaux, Anne Fontaine brosse un portrait un peu sage et parfois froid de Maurice Ravel. Il y a cependant des moments fougueux. Paris Match avec Fabrice Leclerc. Si le film se perd dans sa dernière partie, son casting impeccable lui donne toute sa chair, dont notamment Raphaël Personnaz en musicien troublé et Jeanne Balibar en muse excentrique. Et enfin Télérama qui n'a pas aimé avec Jacques Maurice. Des tourments du compositeur Ravel à la création de son fameux hit, ce biopic maladroit se perd malgré les efforts de Jeanne Balibar et Raphaël Personnaz.
Donc, ça dure 2 heures, c'est proposé au Méga CGR et au Pathé Quinconce. C'est donc à travers l'histoire de la création du Boléro en 1928, c'est une évocation, plus qu'un véritable biopic exhaustif, une évocation donc de la vie de son compositeur, le pianiste et chef d'orchestre Maurice Ravel, et des femmes qui comptèrent dans sa vie, alors de sa mère, aimante et aimée, qui crut toujours en lui, en passant par sa bonne, oui, une bonne, attentionnée, son amie et conseillère, la pianiste Marguerite Long, à Ida Rubinstein, danseuse et celle qui lui commande le Boléro, pour en faire un ballet, et Missia, son égérie et amour platonique de toujours. Donc le film évoque la difficile composition de l'œuvre qui rendit célèbre Ravel dans le monde entier. Il faut voir le générique de début qui compile différentes versions, certaines extrêmement baroques, de son célèbre air. Franchement, déjà, ça vaut le coup, ça. Le film montre un compositeur en panne totale d'inspiration au départ et le processus de création de l'œuvre, ses influences. Alors, par exemple, dans les influences, il y a le jazz découvert lors d'un séjour aux États-Unis, les bruits répétitifs des machines industrielles, et puis des airs populaires comme la chanson Valencia, Voilà, donc, et quand on écoute la chanson Valencia, on voit qu'il y a une inspiration dans le boléro, effectivement. Le film s'attache aussi à la personnalité de Ravel, tourmenté, perpétuel, insatisfait, toujours en plein doute sur son talent. Et ce film va jusqu'à la fin de la vie de Ravel, où, atteint d'une maladie mentale, il ne reconnaît même plus son œuvre. Le film, c'est aussi d'ailleurs une peinture de la haute société du Paris des années folles. Ça aussi, c'est intéressant. On a un casting parfait. Raphaël Personnage est excellent dans son incarnation, tout en sensibilité d'un personnage complexe et tourmenté, et puis un casting féminin très intéressant. On l'a dit, Doria Tillier, Jeanne Balibar, Emmanuel Devos, Sophie Guimin. Un film d'une, moi je trouve que c'est un film d'une grande élégance, avec une magnifique direction artistique, les décors et surtout les costumes. Tout ici concourt donc à faire un très beau film, plein d'émotions également, que je recommande sans hésitation, ne serait-ce que parce qu'on y apprend quand même beaucoup de choses sur le compositeur et son œuvre. Donc moi je vous incite vraiment à aller voir Boléro, même si certains critiquent entre ça peut-être un peu trop classique dans sa facture. Boléro au Pâté Quinconce et Oméga Cégère, Comme un fils au Pâté Quinconce et au cinéaste, deux séances par jour. C'est un film réalisé par Nicolas Boukrieff, acteur, réalisateur et scénariste. À son actif en 94, Va mourir avec Marc Ducré. 97, Le plaisir et ses petits tracas avec Vincent Cassel, Caroline Cellier. 2003, Le convoyeur, un excellent polar avec Dupontel et Jean Dujardin. 2008, Cortex avec une tentative de film de science-fiction avec André Dussolier, Marc Keller, Julien Boisselier. 2009, Gardien de l'ordre avec Cécile de France, Fred Testo. 2015, La confession avec Romain Duris et Marine Wacht. 2017, Un ciel radieux en VOD directement. Et puis en 2019, Trois jours et une vie avec Sandrine Bonner et Pablo Poli. Pierre nous en dit plus, comme à l'accoutumée, sur Comme un fils.
Avec Vincent Lindon, Alexandra Holzhammer et Carole Roche. Le synopsis, Jacques Roman est un professeur qui a perdu sa vocation. Témoin d'une agression dans une épicerie de quartier, il permet l'arrestation de l'un des voleurs, Victor, 14 ans. Mais en découvrant le sort de ce gamin déscolarisé que l'on force à voler pour survivre, Jacques va tout mettre en œuvre pour venir en aide à ce jeune parti sûr de si mauvais rail, quitte à affronter ceux qui l'exploitent, en luttant contre les réticences même de Victor pour tenter de lui offrir un avenir meilleur, Jacques va changer son propre destin. La revue de presse, Ouest France avec Philippe Lemoine, une mise en scène sobre, sans pathos. L'Obs avec Nicolas Chaleur. À la réalisation, Nicolas Boukrieff se plie avec une modestie bienvenue aux contraintes du Lindon Movie, trouve dans le visage buté de Stéphane Virgile Stoïka une version moderne de l'enfant sauvage et la clé de son film dans un beau geste, celui d'une main qui jauge et réconforte. Le Figaro avec Valérie Beck, enseignant désabusé et démissionnaire, Vincent Lindon retrouve le feu sacré au contact d'un jeune garçon qu'il va prendre sous son aile. Malheureusement, le nouveau thriller social réalisé par Nicolas Boukrieff manque de surprise. Le journal du dimanche avec Stéphanie Belpech, un récit d'apprentissage au scénario cousu de fil blanc, mais transcendé par la performance de Vincent Lindon. Télé 7 jours avec Julien Barcillon, une histoire de transmission à l'empathie contagieuse qui jamais ne fait la leçon, mais invite à poser un regard fraternel sur ceux qui souffrent. Télérama avec Samuel Douer, un enseignant solitaire prend sous son aile un jeune Rome exploité par son oncle, une rencontre émouvante, filmé à la manière des frères Dardenne et marqué par le jeu puissant de Vincent Lindon. Première avec Pierre Lune, mise en scène à l'os, réalisme étouffant, on se croirait chez les Dardenne au début. Sauf qu'il y a Vincent Lindon, qui est à la fois le meilleur atout du film et son pire ennemi. Sa présence impressionne d'abord, brute, dense, avant de tout écraser, de ne plus laisser respirer la fiction et les autres personnages. Et je termine par ceux qui n'ont pas aimé, c'est Les Inrecuptibles, avec Jean-Baptiste Morin. Mais à quoi sert ce type de long métrage si l'on n'y trouve pas plus de cinéma, de forme, de travail stylistique et qu'il se contente d'être une banque d'images et de sons à sujet sociétal? Parce que le fond, c'est la forme, et que reproduire à l'infini les mêmes clichés cinématographiques ne sert qu'à répéter les mêmes clichés sur les Roms.
Oui, alors le dernier critique, Les Incorruptibles, il peut dire ça pour 90% des films. Hein. bon, c'est comme ça. Comme un fils, donc, c'est un film proposé par les cinéastes 2 séances par jour et par le Pathé Quinconce. Jacques, donc, vient de démissionner de l'éducation nationale. Il n'a plus vraiment la foi, le feu sacré, appelez ça comme vous voulez. En faisant ses courses dans une épicerie, il est le témoin de l'agression de l'épicier et il contribue à faire arrêter un jeune adolescent, Victor, un adolescent rom et voleur. Donc quand il découvre un peu mieux ce jeune voleur qui ensuite va cambrioler sa maison après sa garde à vue, eh bien, il se prend d'intérêt pour lui, découvre ce qui le pousse à agir ainsi et se met à lui venir en aide. Voilà, ça c'est l'idée. C'est plein de bons sentiments et d'une forme de naïveté, ce film de Nicolas Boukrieff. Ça s'intéresse à ces jeunes Roms délinquants, ça les dépeint comme des victimes, et ils le sont incontestablement, puisque le jeune garçon du film est sévèrement battu par son oncle s'il ne ramène pas chaque soir un minimum d'argent. Donc victime sans doute, mais quand même délinquant, car ils font quand même du tort à des gens qui ne demandaient rien, ils agressent des personnes parfaitement banales, et ça, cet aspect, le film le gomme totalement. Bon, alors donc le film préfère se focaliser sur Jacques, ce bon samaritain qui se met en tête d'apprendre à lire et écrire à ce garçon, après avoir passé un marché avec lui. Alors le marché, je vous les donne pas, mais enfin il est assez facile à comprendre. Naïveté, disais-je, oui, parce que le film part du postulat, pendant que Victor est plein de bonne volonté, docile, voit tout de suite en Jacques un bienfaiteur qui va lui apprendre à lire, à écrire et peut-être se sortir de son problème. Bon, moi je veux bien, hein, mais moi j'ai pas cru beaucoup en tous les cas. Ça c'est mon côté très pessimiste sur la nature humaine. Reste que le film évoque ce problème des mineurs délinquants étrangers et des associations qui leur viennent en aide. Vincent Lindon, ben, il est comme toujours parfait dans son rôle de brave type humaniste. Il est prêt à sacrifier sa bibliothèque de livres rares pour sauver Victor des malheurs qui s'abattent sur lui. Donc c'est un récit de transmission sobre, sans grande originalité, mais c'est aussi le beau portrait émouvant d'un homme plein d'idéalisme. Donc je suis un peu mitigé, mais ça n'est pas du tout un film déplaisant à voir au cinéaste ou au Pathé Quinconce. HLM Poussy. Alors HLM Poussy, c'est uniquement au Pathé Quinconce. C'est un premier film. Sa réalisatrice Nora El Ourche avait auparavant réalisé un court-métrage. Là, HLM Poussy, ça dure 1h41. Amina, Djenéba et Zinch, on dit comme ça certainement, Zinab. Trois adolescentes inséparables postent sur les réseaux sociaux une vidéo mettant en cause l'agresseur de l'une d'entre elles. Elles devront choisir entre sauver leur amitié ou céder face aux pressions. Alors, qu'en pense la presse? Eh bien, Valérie Beck dans Le Figaro déclare que c'est un premier film réussi en forme d'ode à l'amitié. Sophie Grassin dans L'Obs, le scénario est un peu brouillon, mais la réalisatrice, sans aucun doute fan de Kechiche, sait aborder avec nuance les questions du consentement, des privilèges de classe et de la double culture dans ce film électrique porté par Elvia Dorestu, hymne féministe. Ah, je ne connais pas Elvia Dorestu, tu nous en parleras, Pierre.
Ah non, pas
donc,
du tout.
Hymne féministe contre la culture du viol qui sonde MeToo en banlieue et révèle 3 fichues graines d'actrices. Catherine Ball dans Le Parisien, si certaines répliques ou situations ne sonnent pas toujours justes, ce trio de copines se révèle attachant et le scénario édifiant. Baptiste Thion, Le Journal du Dimanche, il y a là une belle énergie, mais la réalisatrice manque de finesse dans son écriture et l'interprétation de son attachant trio est inégale. Mathieu Joubert, Le Monde, l'énergie passe certes, mais sans réussir à faire oublier l'inexistence de la mise en scène qui abandonne ses actrices en cours de route. Celle-ci se retrouve d'ailleurs vite enfermée dans un récit d'empowerment qu'on voit venir de trop loin. En toute victime d'agression se trouverait une colleuse féministe. Lou Huppel dans Première, si les dialogues n'enlèvent rien à la fougue et la spontanéité de ces 3 interprètes attachantes, ils échouent à véritablement transcender l'enjeu social et féministe de la lutte. Et enfin, Marie Soulion dans Télérama, à l'arrivée une belle énergie, mais aussi beaucoup de maladresse dans ce premier long-métrage qui a le mérite de questionner le mouvement MeToo en banlieue. Alors Pierre?
Bah, curieusement, cette semaine, deux films certes différents, quoique deux films abordent le même sujet. Alors, l'autre film, j'en parlais tout à l'heure. Le flagrant délit, donc le sujet, pris sur une vidéo. Nous sommes ici en présence de trois adolescentes de 15 ans, copines de collège, dont l'une d'entre elles est filmée par les deux autres en train d'être abusée par un garçon. Abusée surtout verbalement, hein, je précise. L'interprétation est servie par trois actrices débutantes, mais très talentueuses, qui nous imprègnent de la France multiculturelle dans laquelle nous vivons, notamment au niveau d'adolescentes qui partagent la même classe dans la même collège. Alors en ce qui concerne le titre HLM, c'est bien dans un HLM que ça se passe, et Pussy, je n'ose pas traduire, mais c'est un terme familier que les anglophones comprendront vite. Voilà.
Donc, ça s'appelle HLM Pussy. C'est proposé par le cinéma...
Le Pâté.
Le Pâté, absolument. Trois séances par jour et ça ne commence pas à de bonne heure.
C'est à 17h30 la première séance.
Exactement. Eh bien, c'est le moment de passer un morceau de Ravel, la sublime pavane pour une infante défunte. C'est exactement la version qu'on entend dans le film d'Alexandre Tarot. Donc, Ravel, pavane pour une infante défunte, c'est superbe. Et c'est sur Radio Alpa, c'est pas souvent qu'on passe du classique.
Ben non.
Pavane pour une infante défunte, Alexandre Tarot au piano, et c'est Maurice Ravel, on entend ce titre bien entendu dans le film Boléro. 14 jours pour aller mieux. 14 jours pour aller mieux, c'est un film d'Edouard Pluvieux, réalisateur, scénariste. Auparavant, il avait réalisé en 2015 Ami Public avec Kev Adams et Vincent Elbaz. Son film est proposé au Colisée, au Méga CGR et au Pâté Quinconce. Pierre.
Alors avec Maxime Gasteuil, Zabou Breitman et Romain Lancry. Le synopsis, Maxime, cadre ambitieux et cartésien, ne pense qu'à sa carrière et à son futur mariage avec Nadège, la fille de son patron. Au bord du burn-out, seul à ne pas s'en rendre compte, il se retrouve embarqué par son futur beau-frère, Romain, au beau milieu de son pire cauchemar. Un stage de bien-être encadré par Clara et Luc, un couple de clairvoyants avec des stagiaires plus lunaires les uns que les autres. 14 jours pour aller mieux, au cours desquels ses principes et préjugés vont être soumis au régime zénitude et bienveillance. La revue de presse, qui va être assez brève d'ailleurs, Le Parisien avec Grégory Plouviez. Si le scénario ne brille pas toujours par son originalité, le film brille par des dialogues souvent bien sentis et offre de brèves mais savoureuses partitions à quelques seconds rôles prestigieux, de Michel Boujna à Bernard Farcy, en passant par Chantal Lobby, Redouane Bougueraba ou Ragnar Le Breton. Première avec Thierry Chaise, l'entame paraît prometteuse, avec un humour cinglant, dans lequel Zabou Breitman excelle en coordinatrice de stage. Un humour cinglant qui s'éteint, hélas, petit feu, les aspérités fondant comme neige au soleil pour tendre vers l'inéluctable happy end. Télérama avec Augustin Pietron Locatelli. Grimé en gourou, Zabou Breitman s'endole à l'heure à cœur joie, mais sa performance est écrasée par le schéma classique de la comédie chorale, où chaque personnage n'est défini que par un trait, gros en l'occurrence, de personnalité. Le film se limite ensuite à une succession de sketchs mollassons. Ouest France, quelques scènes amusantes, mais l'ensemble est bien trop sage pour convaincre. Et Paris Match, avec Fabrice Leclerc, feel good movie certes traditionnel, mais bien troussé, le film vaut surtout par des dialogues explosifs, ciselés comme des lames débitées à la chaîne.
14 jours pour aller mieux, c'est proposé par le Colisée, le Méga CGR et le Pâté Quinconce. Max, c'est un jeune cadre ambitieux, au bord de la crise d'honneur, du burn-out comme on dit aujourd'hui, en couple avec la fille de son patron, et le jour de sa demande en mariage, eh bien il pète les plombs. Alors, pour essayer de se racheter aux yeux de sa fiancée, il accepte, à contre-cœur, d'accompagner son futur beau-frère, gentiment azimuté, à un stage de bien-être, histoire de faire le point et de se ressourcer, comme on dit aujourd'hui. Arrivé là-bas, il va faire une série de rencontres avec des gens étonnants, les stagiaires et ceux qui organisent le stage. C'est Zabou Breitman et Lionel Abelansky. C'est une gentille satire des centres de bien-être et de leurs gourous aux méthodes fantaisistes qui vaut, comme souvent dans les comédies françaises, par ses acteurs, donc Maxime Gasteuil dans son premier grand rôle au cinéma et donc notamment Zabou Breitman et Lionel Abelansky en couple de, entre guillemets, clairvoyants à l'origine du stage, et il y a aussi quelques autres acteurs. Alors, comme très souvent dans les comédies grand public, c'est très drôle au début, le temps d'exposer la situation, l'idée de départ et de présenter les personnages avec leurs traits de caractère à chacun. Donc, on a un comique de situation, des punchlines savoureuses, et puis forcément, ça devient gentillé et bienveillant, comme si les auteurs refusaient d'aller trop loin dans la satire et dans la corrosion. Mais il faut bien, hélas, faire des concessions si on veut attirer le grand public dans les salles et faire l'inévitable feel-good movie consensuel que le grand public semble tant apprécier ces dernières années. C'est dommage, moi mes goûts personnels me portent davantage vers un humour vachard, présent quand même un petit peu dans certaines scènes, mais le film rentre surtout dans la case comédie française consensuelle et peu audacieuse, donc le fameux feel good movie avec happy end de rigueur. Voilà, très mitigé sur pas 14 jours pour aller mieux. Je serai moins mitigé sur la salle des profs dont on va parler maintenant. La salle des profs, c'est proposé par les cinéastes, 2 séances par jour. C'est un film allemand de Ilker Chatak, réalisateur et scénariste né en 84. Il a commencé comme assistant réalisateur et jusqu'à maintenant, ses films sont des téléfilms proposés sur Arte. Ben, c'est un peu normal, Arte, c'est la chaîne franco-allemande. Donc en 2017, il y a eu Dans la cour des grands, 2021, Parole donnée, et 2022, Au bout du voyage. Donc La salle des profs semble être le premier film distribué en France dans les salles. C'est un très gros succès cette année, enfin l'année dernière, en Allemagne. 1h39 pour ce film. Alors qu'une série de vols a lieu en salle des profs, Carla Novak mène l'enquête dans le collège où elle enseigne. Très vite, tout l'établissement a été branlé par ses découvertes, car la Novak, elle était interprétée par une actrice que je ne connaissais pas, Léonie Benesch, qui est excellente. Perrine Kenneson dans Cinématiseur, rumeurs, non-dits, méfiance intergénérationnelle et casse-tête de l'enseignement. À l'heure des réseaux sociaux, le film tire à vue avec une précision chirurgicale. Nicolas Chaleur dans l'Obs, plus qu'un film de suspense en milieu scolaire, la salle des profs est un huis clos étouffant sur une enseignante mue par une haute idée de son métier qui veut bien faire, chute, tente de se rattraper et s'enlise telle une souris prise dans sa roue, seule malgré les autres. Glaçant, conclut Nicolas Chaleur à propos du film. Éric Novov, Le Figaro, le film est fort. Il évite tout manichéisme, décrit de l'intérieur les coulisses d'une profession, opte pour une image de format étroit qui enserre l'intrigue dans un décor kafkaïen, le tout sur un air de violon lancinant. Le suspense est là. Barbara Théâtre de Journal du Dimanche, le réalisateur pose les bonnes questions sur les multiples enjeux du système éducatif en nous embarquant dans une chronique humaniste mais jamais candide qui tient aussi du thriller avec son ambiance très tendue entretenue par une mise en scène nerveuse. Adrien Gombeau dans Les Échos, un film mené où le lycée est mis en scène comme une micro-société. La revue Positive, Louise Dumas, le film invente un genre qu'on pourrait appeler le thriller pédagogique. Il est construit et tourné aussi efficacement qu'un film à suspense. C'est bien l'avis de Johan Haddad dans Première. Léonie Benesch, formidable comédienne qui n'est pas sans rappeler Isabelle Huppert, livre une performance exceptionnelle, tout en nuances, et cristallise parfaitement la douleur et les attentes liées au métier d'enseignant. Un film plus important que jamais. Julien Marcinon dans Télé 7 jours, c'est un véritable thriller en milieu scolaire que l'on assiste entre réflexion pédagogique, philosophique, politique et vie de classe. Renaud Baronnier en Le Parisien, un film sous tension, formidablement interprété par la comédienne Léonie Benesch, mais certaines facilités dans la progression du récit et une fin bien trop lourde gâchent en partie l'ensemble. Jean-Baptiste Morin, Les Inrecuptibles, le jeu avec la vidéo rappelle un peu les films de Haneke et le récit un peu trop bien ficelé, alambiqué, moralisateur, rappelle un peu les films de l'Iranien Asghar Farhadi. Heureusement, Léonie Benesch a une belle présence et parvient à donner de la vie à tout cet attirail narratif un peu trop sophistiqué et bien huilé. Yannick Veuly dans Paris Match, un cinéma efficace et haletant, bien aidé par une musique digne d'un film d'épouvante, mais dont le message est délivré avec la finesse d'un panzer en écrasant tous les personnages. Bon, la finesse d'un panzer, je pense que si le film n'avait pas été allemand, Yannick Veuly ne se serait pas permis ce genre de réflexion. Enfin, peu importe. Donc, Carla Novak, c'est une jeune prof dans un collège allemand. Et pour essayer de découvrir l'auteur de Vol commis dans la salle des profs, eh bien, elle laisse tourner la webcam de son ordinateur pour avoir la preuve qui permettra de disculper notamment ceux qui sont accusés à tort et évidemment de confondre le coupable. Sauf que, la vidéo montre quelque chose qui va provoquer un véritable séisme dans l'établissement, aussi bien chez les profs que les élèves, leurs parents, l'administration. Donc, on a ensuite un déchaînement de situation qui vont échapper à tout le monde et à tout contrôle. Moi, je trouve que c'est un excellent film, basé sur un scénario implacable qui montre ce collège comme un microcosme de toute la société, de toutes ses dérives, toutes ses tares dans l'air du temps de nos sociétés occidentales. Le jurilisme, je ne sais pas si ça se dit, mais en fait, tout le monde comprend ce que je veux dire. Jurilisme, c'est-à-dire tout est prétexte à procès, à avocat, etc. Déclin de l'autorité, importance des réseaux sociaux, conflit de génération aussi, discussion sans fin, mauvaise foi, responsabilité éludée, pas de vague, chacun pour soi, dévoiement des grands principes, faiblesse des adultes face à des adolescents devenus tout puissants, car il ne faut surtout pas les traumatiser et leur accorder les mêmes droits qu'aux adultes. Bon, bref, c'est un film corrosif qui montre comment une banale histoire, d'une banale histoire, on passe à une anarchie totale par excès de précaution, de politiquement correct, d'incapacité à prendre une décision forte, par peur des immanquables réactions qu'elle pourrait susciter et que justement, l'absence de réaction va susciter quand même. C'est conçu comme un polar. C'est un film qui est une étude de mœurs contemporaine de tous les excès qui vont avec à travers l'histoire de cette jeune femme et de sa descente aux enfers. Elle qui croyait au départ bien faire, elle se décide en essayant de résoudre une affaire de vol, elle se retrouve prise dans un engrenage dont elle ne pourra pas se sortir. Donc c'est un film prenant, brillant, avec quand même un petit bémol quand même pour la fin que j'ai trouvé un peu frustrante avec sa volonté de ne pas vraiment conclure.
Ah.
Oui.
La salle des profs, donc un film fort et passionnant de bout en bout de par la qualité de l'interprétation, Je donnerai une mention spéciale à Léonie Bénèche dans son rôle de prof prise entre deux feux, de part aussi par le thème abordé, donc j'en parlais tout à l'heure, celui du droit à l'image et surtout celui de la délation à partir d'une simple vidéo. Le film interroge sur la culpabilité ou non, celui de la présomption d'innocence, et ce long métrage nous montre aussi la souffrance de la personne soupçonnée qui nous laisse dans l'incertitude, même après la fin du film, c'est vrai. Je voudrais conclure en citant un extrait du magazine VO. Nous ne pouvons pas sortir du film indemne sans nous poser mille et une questions sur dilemme.
Voilà, ça s'appelle La salle des profs, on a tous les deux beaucoup aimé, et c'est proposé par les cinéastes, évidemment c'est en VO, mais bon, c'est sous-titré, hein, donc il n'y a pas de problème. Allez, on revient à notre ami, à Maurice Ravel, Ma mère loi, les contes de ma mère loi, Le jardin féerique, c'est un titre que l'on entend dans le film Boléro. Et donc, vous allez écouter sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Maurice Ravel, Le jardin féerique, c'est un titre que l'on entend, un extrait en tous les cas dans le film Boléro. Inch'Allah un fils, c'est proposé par les cinéastes, une seule séance par jour, c'est de Amjad Al-Rashid, réalisateur scénariste jordanien né en 85, il avait auparavant réalisé un court-métrage, c'est son premier long-métrage, ça dure 1h53, Inch'Allah un fils. Jordanie, de nos jours, après la mort soudaine de son mari, Nawal, 30 ans, doit se battre pour sa part d'héritage afin de sauver sa fille et sa maison. dans une société où avoir un fils changerait la donne. Catherine Ball en première déclare que le film est très émouvant et par ailleurs empreint de suspense à travers et traversé par l'espoir. Olivier De Bruyne dans Les Échos déclare que c'est un premier film remarquable. Damien Leblanc en première, grâce à une minutieuse mise en scène où les personnages tentent en permanence de s'extirper, où le personnage tente en permanence de s'extirper de décors étouffants pour gagner sa liberté, ce récit au dialogue ciselé procure au final des sensations poignantes, lumineuses et apaisées. Xavier Le Herpeur dans L'Obs, cette fiction lucide, mise en scène avec un sens très affûté du découpage, est une révélation. West France, Pascal Vergerot parle d'un superbe portrait de femme. Bruno de Ruisseau dans Les Inrecuptibles, bien que doté d'une mise en scène plutôt convenue, ce premier film brille par la justesse de son parti pris féministe. Luc Chessel, Libération, premier film jordanien sélectionné à Cannes, Inch'Allah un fils, pionnier en termes géopolitiques, ne l'est pas tellement sur le reste, sujet, narration, style, où il est plutôt bon élève, premier de sa classe de drame social. Ça en fait un film instructif sur la législation jordanienne. Nous n'avons pas vu, ni Pierre ni moi, ni Inch'Allah un fils. C'est proposé par les cinéastes avec une seule séance par jour, ma foi. Alors, comme je vous ai parlé du Boléro de Ravel, on va quand même en entendre un petit morceau, petit extrait, et on va le mettre en fond sonore. Parce que, le Boléro, si vous connaissez les premières minutes, c'est pareil jusqu'à la fin. Oui. Ça dure un quart d'heure. Donc, on va mettre le Boléro. Et Pierre, en même temps, en dessous, parlera de...
Imaginary.
Oui. Imaginary, c'est un film américain de Jeff Wadlow. C'est proposé par le Méga CGR, uniquement le Méga CGR. Alors, Jeff Wadlow, réalisateur, scénariste, producteur américain, né en 76. Il a à son actif des films comme en 2008, Never Back Down. 2013, Kick Ass 2 avec Aaron Taylor Johnson et Chloé Grace Moretz. 2014, Kick Ass, Les Mémoires d'un assassin international, ça c'était pour Netflix. 2018, Action ou Vérité. 2020, Nightmare Island, avec Michael Peña, moi je me rappelle l'avoir vu ça il n'y a pas longtemps. Et 2022, pour Netflix, Le Mauvais Esprit d'Halloween, il a aussi à son actif des épisodes de séries télé. Alors Pierre, qu'est-ce qu'on dit de Jeff Wadlow d'Imaginary dans la presse et le synopsis?
Oui, attention, c'est interdit au moins de 12 ans, parce que c'est une épouvante horreur. Avec Devon Dawes, Betty Buckley et Tom Payne, le synopsis, lorsque Jessica retourne dans sa maison d'enfance avec sa famille, sa plus jeune belle-fille, Alice, développe un attachement étrange pour un ours en peluche qu'elle a trouvé dans le sous-sol et nommé Chauncey. Tout commence par des jeux innocents, mais le comportement d'Alice devient de plus en plus inquiétant. Jessica comprend alors que Chauncey est bien plus qu'un simple jouet. Première avec Manon Bellassen. Le design poussiéreux de l'ourson parvient à faire son effet poupée maléfique, comme satisfaite de torturer le spectateur par son cache-cache psychologique. Mais encore aurait-il fallu que cette nouvelle production Blumhouse exploite un imaginaire original. Le Parisien avec Michel Valentin, une peluche hantée et maléfique, le sujet est osé et nécessite une intrigue bien ficelée. C'est hélas loin d'être le cas ici, le film enfilant tous les poncifs possibles. Jessica a connu un traumatisme étant enfant, elle est détestée par la plus âgée de ses belles-filles. Max est un homme absent du foyer avec une constance désarmante. C'est tout.
Eh ben oui, c'est tout. On n'est pas allé voir Imaginary. Pierre, il aime pas les films d'horreur. Et moi, je ne suis pas très motivé non plus par cela. Blue Giant, on part au cinéaste. Une séance par jour. C'est un film d'animation, japonais de Yuzuru Tashikawa. Yuzuru Tashikawa, je ne le connais pas, mais c'est un réalisateur et scénariste japonais qui avait à son actif des dessins animés. Donc en 2018, Détective Conan, l'exécutant de Zéro, et 2023, Détective Conan, le sous-marin noir. Il a aussi à son actif des courts-métrages d'animation. Alors, ce film dure 2 heures. Alors, ça a beau être un film japonais, eh bien, Pierre n'est pas allé le voir parce que, quand même, de l'animation, il n'aime pas trop l'animation.
Oui, mais j'aime beaucoup la musique. Mais
je vais peut-être lui donner envie, on va voir.
Oui.
Alors, la vie de Dai Miyamoto change lorsqu'il découvre le jazz. Il se met alors au saxophone et s'entraîne tous les jours. Il quitte Sendai, sa ville natale, pour poursuivre sa carrière musicale à Tokyo avec l'aide de son ami Sunji. Jouant avec passion, Dai arrive un jour à convaincre le talentueux pianiste Yukinori de monter un groupe avec lui. accompagné de Sunji qui débute à la batterie. Ils font le trio Jazz, J-A-2-S. Au fil des concerts, ils se rapprochent de leur but, se produire au Soho Blue, le club de jazz le plus célèbre du Japon, avec l'espoir de changer à jamais le monde du jazz. Alors, la presse aime bien le film Le Parisien, Bénédicte Agoudetsé. Outre la beauté des images, c'est l'occasion de redécouvrir le génie de l'artiste international nippon Hiromi, pianiste virtuose devenu une star au début des années 2000, qui a composé la bande originale du film et notamment celle des scènes live. Les films sur le jazz sont rares, les mangas encore davantage, donc un savoureux mélange. Arnaud Allais, Les Incorruptibles, le spectacle d'une transe rendue possible par le pouvoir euphorique et physique de la musique, dévoile son plus précieux sortilège. Le saxophone se fait cosmos et le coup de chaud est total. Guillemette Odissino dans Télérama, le trait séduit par son réalisme quotidien pour devenir enivrant dans les séquences musicales. Volontiers psychédéliques, elles transmettent le tempo fiévreux et font apercevoir la moindre goutte de sueur des improvisations. Le Monde, le graphisme du film restitue habilement le décor d'un Tokyo stylisé, pluvieux et nocturne, ses petits bars et ses salles de concert. Et lorsque les solistes donnent au cours des nombreux concerts qui émaillent le film le meilleur d'eux-mêmes, l'image semble prise d'une frénésie toute particulière, dérivant de la figuration pure et précise pour parvenir à une forme d'abstraction sensorielle. Yannick Velie dans Paris Match, la trame est classique, une suite d'épreuves pour conquérir le Saint Graal, joué en concert dans la plus grande salle de Tokyo, mais chaque passage musical est un régal, nous transportant dans le fameux état second que provoque parfois la musique live. Xavier Lerpe dans L'Obs, mouvement circulaire et décadrage magistraux, repousse les limites du formel, avec pour seule limite une frénésie qui, sur la durée, se répète et épuise un peu. L'Elogimi Battista Libération, formellement, c'est plutôt joli, voire assez impressionnant dans les séquences live. Pour le reste, ça dépendra intégralement de votre perméabilité au jazz et à votre assentiment à l'idée assez détestable d'aborder l'expression artistique comme une compétition sportive. Voilà, pas vu, ça a duré deux heures pour la fin d'animation, j'ai du mal, hein. Bon, c'est comme ça. Donc Pierre, peut-être, non, bon. pas tenté, pas plus
pour
que
la
ça.
Musique, peut-être.
Peut-être
oui.
Pour la musique, oui. Voilà. Bon, alors je vais annoncer le Boléro, mais je suis pas sûr que je l'ai, non, je l'ai pas, en fait, je croyais l'avoir, mais je ne l'ai pas, ben tant pis, donc le Boléro, je vais pas vous le fredonner, hein, mais vous le connaissez tous. Donc éventuellement, si la semaine prochaine je n'ai pas de musique, vous aurez droit au Boléro, mais en tous les cas, pour cette semaine, c'est pas possible. Alors donc, on va annoncer les films à l'affiche la semaine prochaine et on commence par les avant-premières. Alors ce soir, vous avez l'embarras du choix. Alors, vous pouvez voir, alors déjà cet après-midi, 13h45 Omega CGR, Elie Semoun vient présenter Du Cobu passe au vert. Donc il vient présenter le film, il ne vient pas débattre du film, il vient présenter le film au début de la séance, 13h45. Il est prudent de réserver, mais peut-être que c'est déjà tout plein. Sinon, ce soir, alors, à 19h30, Il reste encore demain, VO au pâté, c'est un film italien, hein, 19h30, pâté. 20h, Omega CGR, La Nouvelle Femme, c'est un film qui sortira la semaine prochaine, c'est sur Maria Montessori. Et 20h30, Rosalie, ça sortira à la fin du mois, 20h30, au Colisée. Voilà, donc les avant-premières, ce soir, vous avez le choix, et même l'embarras du choix. Je répète, 19h30 au pâté, Il reste encore demain, en VO. 20h, La Nouvelle Femme au Méga CGR. Et 20h30, Rosalie, c'est avec, je ne sais plus le prénom, Tereskevitch, l'actrice, cette jeune actrice en plein boom actuellement. Mais je ne me rappelle plus son prénom. Peu importe, la semaine prochaine, qu'aurons-nous à nous mettre sous les yeux? Eh bien, on aura, donc, Il reste encore demain. Donc, je vous en parlais. Il y a des chances qu'il y ait des séances aussi aux cinéastes. Dans la peau de Blanche Welbeck, ça va être bien azimuté avec Blanche Gardin et Michel Welbeck, c'est de Guillaume Niclou. On aura Heureux-Gagnant. Heureux-Gagnant, c'est un film qui est une comédie française. J'espère que ça va être un peu corrosif. La bande-annonce laisse penser, mais je me méfie des bandes-annonces. C'est avec Audrey Lamy, Fabrice Eboué, Anouk Grimberg. C'est des gens qui gagnent l'auto et qui ne sont pas forcément heureux d'avoir gagné, parce qu'il leur arrive bien des malheurs. Les Rois de la Piste de Thierry Clifat avec Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz. La Nouvelle Femme, donc on en parlait il y a un instant, de Léa Todorov avec Leila Bekti et Jasmine Trinca. Donc c'est sur Maria Montessori. Les cinéastes proposent également The Sweet East de Sean Price Williams. Scandaleusement vôtre également au cinéaste Thea Sharrock avec Olivia Colman. Il devrait y avoir aussi Chronique de Téhéran. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont avoir la place de placer tous ces films-là au cinéaste. Chronique de Téhéran, un film, comme son nom l'indique, iranien. Et probablement aussi Neuilly-Poissy, parce qu'avec Max Boublil, Mélanie Bernier et Claudia Tagbo, je ne vois pas comment un film avec un tel casting ne sortirait pas sur les écrans Monceau. Voilà. Cette semaine, Pierre et moi, on a beaucoup apprécié...
Ah, La Salle des Profs, c'est vraiment un beau film.
La Salle des Profs, absolument. Mm-hmm. Et moi, j'ai beaucoup aimé Boléro aussi.
Mais je conseille quand même aux ados d'aller voir HLM Poussy.
Bon, voilà. Eh bien, donc, sur ces bonnes paroles, on va vous souhaiter, sans Boléro, le film. On entendra peut-être la semaine prochaine, peut-être du Boléro, mais j'étais persuadé d'avoir capté. Bien, allez, hop, on se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien, sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Au revoir.